Bonjour, je suis Simon.
Bonjour, je suis Simone. Bienvenue dans Discorama.
Saison 7.
Le 104e épisode de Discorama, le podcast qui raconte la musique. Et si c'est la première fois que t'es avec nous, bienvenue à toi. Laisse-toi porter, ça va très bien se passer.
Salut à toi, comme dirait l'autre.
Absolument, et en ce moment, ça fait du bien de dire un petit peu de salut à toi.
Oui.
Je vous rappelle à toutes fins utiles que le prochain épisode de Discorama sera consacré à la musique des auditeurs. Autrement dit, la musique que vous faites
incroyable,
chez vous.
Incroyable.
Et il vous reste concrètement très peu de temps pour participer vu que l'enregistrement aura lieu le 12 décembre. Donc pour participer, rien de plus simple, vous nous envoyez un seul et unique morceau en MP3, en pièce jointe.
Ouais.
Pas de lien. Hein, uniquement des pièces jointes, avec un court texte de présentation, 2 lignes, 3 lignes, pas l'intégralité de votre CV,
oui,
ou l'histoire des armoiries de votre famille.
Alors oui, parce qu'en fait,
L'adresse pour envoyer tout ça, c'est 3615 Simon et Simone@gmail.com. C'est ouvert à tous, quel que soit votre projet. On adore ce qui est foutraque. Donc,
oui, oui.
Même si vous faites de la musique bizarre, vous êtes carrément les bienvenus.
Bah oui.
Il y a de grandes chances pour que votre musique soit diffusée dans cet épisode. Si toutefois, ça ne l'est pas, ça veut dire qu'il y a trop de monde et qu'il y a trop de choses qui se ressemblent et qu'on est obligé de faire des choix.
Et on a d'ores et déjà reçu autant de musique que l'année dernière.
Et voilà.
Il ne reste encore 15 jours.
Ah là 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 là. De plus en plus de monde. Bref, ayez confiance en vous. On sait que vous avez du talent.
Oui.
Voilà.
C'est vrai.
Petit rappel également, Discorama est disponible sur toutes les bonnes applications de podcast. Pensez à mettre 5 étoiles et des commentaires dithyrambiques. Si toutefois vous avez des retours négatifs, n'hésitez pas à les envoyer sur Twitter, @DavidRachlin. N'hésitez pas, soyez vénères. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter.com/3615SimonSimone.
Allez-y.
BlueSky3615SimonSimone.
Nouveauté 2023.
Absolument. Et Instagram3615SimonSimone.
Bien. Parfait.
Voilà.
Vous êtes une magnifique
speakerine. Eh oui.
Simone, pour ce qui est de l'argent.
J'ai envie de dire que ding dong, c'est
oui,
les éboueurs.
Ding
dong, c'est les éboueurs. Noël approche les enfants et c'est le moment de garnir le dessous du sapin de tes podcasteurs préférés, autrement dit nous. En te rendant sur tipeee.com/Simon et Simone. Qui d'un euro, qui de 50 euros, qui de 2000 euros, le don est libre. Et ça nous sert évidemment à nous acheter de la drogue et des flûtes, mais pas seulement.
Non.
Nous achetons aussi plein de matos et on fait tourner toutes les librairies et les disquaires d'Angoulême. Et ça, c'est quand
Oui, c'est vrai.
Et ça, quand même, c'est assez cool.
C'est vrai parce que on se nourrit beaucoup de livres et de disques pour vous préparer ces discoramas. Donc,
de plus en plus, en fait. C'est-à-dire qu'avant, on se reposait un peu sur nos acquis. Maintenant, on est obligé de travailler plus.
C'est le 104e épisode.
Il y a du taf. On a fait un certain nombre de sujets. Donc maintenant, il faut qu'on aille chercher de la littérature.
Il faudrait qu'on fasse des calendriers.
Et oui.
Pas bête.
Et oui.
Avec Gilly en janvier. Les Rideaux en février.
Ah, ce serait génial.
Et à l'image de ce type qu'on a eu il y a une demi-heure, même un euro, parce qu'on a eu un type de Traxman qui me dit que ce n'est pas grand-chose, mais merci pour toutes ces heures de découverte. Et de bonne humeur, en fait, même un euro récurrent tous les mois, ça nous aide beaucoup.
Et oui,
voilà.
Tout à fait. Ça peut, par exemple, servir à payer l'hébergement sur OVH de notre site internet.
Exactement.
Ou peut-être un débrideur de liens. Enfin, Dieu seul sait. Bref, c'est un peu notre passe-culture à nous. N'hésitez pas, rendez-vous sur tipeee.com/Simon et Simone.
Magnifique, Simone.
Et envoyez des sioux.
C'est beau.
On a tout fait.
C'est beau, on a tout fait.
Je crois qu'on a tout fait. Allez,
on a tout fait. Je crois qu'il est temps de passer.
Petit jingle.
Bienvenue sur Discorama. Avec au micro et au platine, Simon et Simone.
Alors, Simone, quel est le thème de la quinzaine?
Le thème cette quinzaine, c'est Johnny Circus.
Ah, oh là là, alors là, déjà.
Bah, déjà, il y a Johnny.
Et il y a Circus, non mais.
Et il y a Circus
si
dedans.
On, si on ne connaît pas l'histoire, évidemment, qu'est-ce
qu'est-ce que Johnny
Circus?
Vous
allez le découvrir très rapidement.
Absolument.
Je vous propose d'abord de passer à la tagline.
Bien sûr. Avant tout,
alors, attendez, pour les gens qui sont en live, le titre est déjà affiché en plus, je suis complètement con, c'était affiché depuis une demi-heure.
Eh oui.
Allez, nouveau jingle tagline. Hein.
Ah!
Tagline.
Oh, c'est beau. Dites-moi, vous avez fait travailler Jean-Michel Jarre?
Non, c'est moi.
Ah, c'est vous? Ah, oh, j'adore, magnifique. J'ai deux taglines, mais peut-être que toi, tu vas commencer. T'en as une ou pas?
J'en ai une.
Ah.
Père podcast, raconte-nous une histoire.
Ah oui, c'est... Très bien. Très, très bien. Parfait. Pour ma part, j'ai deux taglines. Ah. La première, qui est un peu descriptive hein, de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le podcast qui te raconte la tournée catastrophique de Johnny.
Une tournée catastrophique.
Oui. Une deuxième tagline plus... Ah, dans l'audace, hein, moins attendue, surprenante. Une espèce de tagline un peu surprise, comme ça. Le podcast résolument Johnny Circus.
Trop bien. Et je vois sur le chat qu'on nous dit... Parce que quand il y a des messages mignons comme ça, je me permets de les lire.
Ah bah bien sûr.
J'ai découvert votre podcast il y a un mois et je fais la taille dans les vergers de pommes et poires. Trop
ah,
bien.
Génial.
Du coup, j'écoute All Day, je crois que j'ai déjà quasiment tout écouté. C'est vraiment top. Cimer. Trop
et
bien.
Bah écoute, cool.
Donc encore un épisode où on va vous parler d'une histoire...
Oui.
Précise. Dont on aura presque tout pioché dans un livre paru aux éditions de l'Archipel, Simone.
Absolument.
Qui s'appelle, alors vous allez le voir à l'envers, mais on s'en fout, Johnny Circus.
Qui s'appelle
Circus.
Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, qui est rédigée par Sam Bernett.
Vous allez voir que Johnny, lui aussi, a été un gros loser.
Ouais.
Parce qu'en fait, on s'imagine pas ça. Et il a été certainement la personne la plus rock'n'roll de France. Cette année-là, au moins.
Oh, bah sûrement, oui, oui. Ça,
vous allez voir
que
c'est une histoire passionnante.
Oui.
Même pour ceux qui n'aiment pas Johnny, c'est pour ça qu'on a le taulier juste là, ce soir.
Qui, d'ailleurs, tranche de vie. Donc, on a une grande PLV de Johnny qui a été installée par Simon dans le studio. Et tout à l'heure, je rentre dans le studio et j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. J'ai cru que quelqu'un se tenait là, au milieu du studio. Mais non, c'était la PLV de Johnny. Voilà.
Johnny qui...
Tranche de vie.
Johnny qui se prépare pour un coup franc.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai
qu'il a les deux mains comme s'il y avait un coup franc. Est-ce qu'on n'introduirait pas un petit peu le sujet du Johnny Circus?
Tout à fait.
Donc le Johnny Circus, ça se passe en 1972. Et à l'époque, en 72, donc Johnny est une star française. Hein. On rappelle qu'il a fait ses premiers pas au Golf Drouot en 59. Donc une sacrée paire d'années avant. Et il vit un peu un creux de la vague à cette époque-là. Il a 29 ans, c'est une période dans laquelle il est très rebelle. Il se fait écrire des textes contestataires par Philippe Labro. Déjà,
contestataire et Philippe Labro dans la même phrase. Bon.
Bah, pour l'époque, si, quand même. Philippe Labro lui écrit « Jésus-Christ est un hippie ». C'est très contestataire pour l'époque, c'est hyper provoquant.
À l'époque, oui.
Oui.
Aujourd'hui, Philippe Labro, bon.
Oui, non mais bien sûr.
On dit Philippe Lebro.
Oui, non, on dit Philippe le Pichet. Enfin, ça dépend des régions, quoi. Bref, en 72...
La cruche.
En 72, ça va être long cet épisode.
Le potolet.
En 72, Johnny, il est donc dans un creux de la vague. Il a passé pas mal de temps aux États-Unis. Il est avec Sylvie, il vient d'avoir David depuis très peu de temps. Et il se dit, je veux innover, je veux aller dans un projet ambitieux. Je veux faire une tournée...
Bah, déjà, en gros, on va vous raconter l'histoire de la tournée de Johnny.
Absolument. Je veux faire une tournée qui va mélanger plein de choses.
Bah, Johnny et le cirque.
Ouais, concrètement,
la
Johnny
fête,
et le cirque.
La fête, Johnny, la fête.
De manière itinérante partout en France. C'est comme ça que cette histoire commence. Et donc, c'est un projet ambitieux, mais qui ne va pas forcément se passer comme prévu, puisque c'est une tournée dont Johnny va mettre des années à se remettre et qui est devenu un sujet dont il refusait carrément de parler. Et donc, c'est raconté par le menu dans ce bouquin qui s'appelle Johnny Circus, qui est à mettre sous le sapin de tous les vrais JH de France.
Hein. Et même, alors, parce que nous, on vous parle souvent de Johnny Hallyday, parce qu'on essaye d'un peu de réhabiliter Johnny dans le sens où nous, enfants des années 80, on en avait l'image... Comme beaucoup d'entre vous, des années 80, 90 et 2000, etc. Alors qu'en réalité, Johnny, c'est aussi des grands moments de rock'n'roll et des grandes chansons. Vous allez voir, on va en écouter ce soir. Donc, c'est aussi, effectivement, ça peut plaire aussi même aux gens qui aiment les histoires de tournée.
Absolument.
Que c'est une grande histoire de tournée, de rock'n'roll.
C'est une histoire de tournée. Celle-là, elle est vraiment goldée. Hein.
C'est probablement une des histoires les plus folles avec le nom, un nombre d'anecdotes. Vous allez voir, il y a plein d'anecdotes, c'est vraiment très très chouette. Et vous allez voir que Johnny était pas le dernier pour le rock'n'roll. Et ça, c'est cool. Et surtout, vraiment, on a l'image de Johnny qui réussit tout. Et ben là, c'est Johnny qui foire un peu tout, en fait.
C'est Johnny qui foire un peu tout. Et l'idée de cette tournée, je propose qu'on raconte un peu la genèse. Sam Burnett la raconte. Il dit qu'à l'époque, il est propriétaire d'une boîte de nuit.
Alors, Sam Burnett...
qui est animateur radio. Voilà, qui est animateur radio et qui connaît Johnny, puisque tout le monde se connaît, hein, évidemment. Et il raconte qu'à l'époque, il est propriétaire d'une boîte de nuit qui s'appelle le Rock'n'Roll Circus, dans lequel Johnny est un peu client, de temps en temps. Et un soir, Johnny vient, il lui dit « Mon petit Sam, j'ai une idée formidable. »
Oh putain, ça va être génial.
Putain, non, je vais pas trop le faire. Il lui dit « T'as créé un club, le Rock'n'Roll Circus. Jérôme Savary, il a créé le Grand Magic Circus. Moi, je vais faire le Johnny Circus. »
Alors, en vrai, ça c'est Sam Burnett qui le dit.
C'est Sam Burnett qui le dit.
Il y a une autre version.
Ah.
En 68, il y a une émission de télévision qui s'appelle le Rock'n'Roll Circus et qui est
animée
par
les Rolling Stones.
Et qui est exactement ce que Johnny veut faire, sauf que
c'est à la télé. C'est une émission de télé. C'est pas une tournée.
Forcément, voilà.
Et effectivement, il y a cette émission-là qui mélange en fait du cirque, des danseurs, des numéros, plein de choses, et un tour de chant au milieu de tout ça. Mais Johnny, lui dit, voilà, je vais louer un grand chapiteau, je vais faire un spectacle avec des danseurs, des numéros de cirque, des bêtes sauvages, des orchestres, enfin tout ce que tu veux. Et je veux faire un truc qui est complètement nouveau en France, et je veux que tu viennes avec moi, et tu seras mon monsieur loyal.
Ouais.
Et l'ambition un peu seconde de Johnny, c'est de vivre en communauté, hein, parce qu'on est en 72.
Ouais.
On aime bien le côté un peu, voilà, vivre sur les routes, un peu Larzac.
Larzac pognon.
Mais on rappelle quand même que Johnny, lui, en fait, il a grandi là-dedans.
Ouais, bien sûr.
Il a grandi, en fait, dans un monde de circassiens. Et je pense qu'il y a quelque part aussi, probablement, une espèce de revanche qu'il veut prendre par rapport aux tournées miteuses dans lesquelles il se retrouvait quand il était gamin, avec son oncle et sa tante. Bref, après cette discussion un peu tardive entre volutes de cigarettes et fluves de whisky, l'idée continue de mûrir pour Johnny. Il prend la décision et il écrit à son fan club en disant qu'il va faire une très grande tournée internationale à partir du 15 juin 72 en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Suisse, en Belgique. Bon, autant vous dire que pour l'aspect international, on repassera. Et que il va louer un immense chapiteau. Tous les soirs, il y aura un spectacle. Et voilà, il va faire quelque chose de nouveau et ça va être génial. Quelques jours plus tard, le fan club reçoit, toujours par l'intermédiaire de Johnny, parce que c'est une époque où, en fait, on n'a pas de page Facebook. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un fan club.
Oui.
Et oui. Et il écrit à ses fans tout le programme du Johnny Circus.
Alors, quel est-il? Parce que tu vas nous lire.
C'est un peu long, hein, je préviens. Et il nous dit, du 15 juin au 5 septembre 1972, le village parcourra 75 villes de France.
J'aurais que tu le fasses avec le...
En activité tous les jours de midi à minuit, il présentera en outre un spectacle de théâtre moderne sous le chapiteau à 18h.
C'est bon.
Avant le show de Johnny Hallyday à 21h. Le village aura une superficie totale d'un hectare. Le chapiteau de 4000 places comportera une scène en inox de 120 mètres carrés. L'ensemble pourra être monté et démonté en 2h15. Les 85 tonnes de matériel seront transportées à bord de 20 camions. 10 camions exposition, 6 roulottes de luxe, 2 voitures caisses, 1 camion cuisine, 1 camion citerne, 2 voitures bar, 2 camions groupe électrogène, 1 camion transportant 250 barrières de sécurité, 3 voitures d'affichage, 1 voiture avant-courrier et 1 camion sanitaire. Soit au total 59 véhicules qui consommeront environ 5 500 000 litres d'essence ou de fuel pour l'ensemble de la tournée.
C'est un argument pour, à l'époque.
À l'époque, c'est un argument pour. Aujourd'hui, on dirait, bah non. Ça, on le dit pas. Donc, il fait le détail du nombre de personnes. Au total, en gros, 169 personnes, 19 nationalités qui seront présents. 5 cuisiniers prépareront plus de 13 000 petits déjeuners, 26 000 repas et utiliseront entre autres denrées 3 tonnes de beurre, 10 bœufs, 50 moutons, 2500 volailles, 3 tonnes de pommes de terre, 3 tonnes de légumes frais, 2 tonnes de riz, 2 tonnes de pâtes alimentaires, 200 kilos de sel. D'autre part, une infirmière et deux infirmiers seront en permanence à la disposition de toute l'équipe du village Johnny Hallyday. À la fin de ce message, il est indiqué en énorme et en entouré, bien souligné, l'utilisation de toute drogue sera interdite. Toute dérogation entraînera l'exclusion immédiate du village Johnny Hallyday.
Voilà, ce qui va être, voilà, non, vous allez voir, ça va être un peu, bon.
L'hôpital qui se fout de la charité, bien sûr. Donc, en gros, on résume, 50 véhicules, 90 jours de tournée, un chapiteau loué à la famille Bouglione. Et Johnny et son camarade Jean Ponce sont tous les deux producteurs de la tournée. Sauf que, en fait, ils savent pas du tout faire, parce que c'est quand même un boulot. Hein.
C'est-à-dire que ça tient plus du cirque et de la fête foraine,
oui,
que de la tournée. Et eux, en fait, leur expertise, c'est la tournée.
C'est-à-dire qu'on va dans des salles où il se passe des concerts. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi cette question de gestion d'intempéries. Et il demande à un ami, Jean-Jacques Vital, qui produisait des émissions de radio itinérantes, de les aider à mettre tout ce projet en place.
Et vous allez voir que ça va pas se passer comme prévu.
Discorama.
Je connais, c'est très 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 beau là-bas. Il y a un club de vacances, non?
Ouais, génial. Moi j'étais à la Babounia.
Ah, la Babounia. Ouais, je connais très très bien. Oui, je crois que je connais. C'est...
Un autre podcast, c'est ça?
Ah.
Vous êtes toujours là, j'ai l'impression de parler dans le vent. Autrement, si vous voulez... Arrêtez de... Non. Quoi? Mais de quoi vous parlez? Je ne comprends rien.
L'échange le plus improbable de la planète à la Babounia, bien sûr.
À la Babounia, bien sûr.
Est-ce que tu veux qu'on écoute quelque chose ou est-ce que tu veux que je continue un petit peu?
On pourrait parler de la première partie, peut-être comme ça me permettrait de...
Alors... effectivement, donc dans ce grand spectacle, il se passe plein de choses et il y a notamment une première partie qui est un groupe qui s'appelle Ange.
Qui est un groupe qui deviendra plus connu quelques années plus tard.
Il faut savoir qu'à la base, Johnny, qui quand même est assez simple hein, dans l'esprit, il se dit ah, qui peut faire la première partie de mon Johnny Circus ? Martin Circus.
Bah oui,
c'était logique.
Temps, oui.
Sauf que Martin Circus, ils disent non, parce qu'ils n'ont pas très très envie de lever le torchon. Et ils disent, en plus, ils viennent de faire Je m'éclate au Sénégal, qui a quand même super bien marché. Donc ils disent ouais, non, on va pas le faire. Et en fait, c'est la maison de disques qui impose ce groupe qui s'appelle Ange.
Avec lequel Johnny s'entendra très bien. Mais il faut quand même se replacer dans le contexte de l'époque. Johnny, en 72, il est dans une période très prog rock, un peu couillu, quoi. Et donc, Ange, ça colle quand même assez bien avec le Johnny de l'époque. Vous allez voir quand même que moi, ça sur scène, je suis chaud. De ouf. Quand même loin de Omarie, si tu le savais. Tu
on vois. Est très très loin.
Faut quand même. Voilà, Johnny et son entourage, à l'époque, on est plus, c'est plus ça que Omarie.
Ah bah bien sûr. Le Johnny des années 70, moi, c'est une des périodes que je préfère.
C'est la meilleure période. Je t'en prie.
Christian Descamps, le leader du groupe Ange, il raconte un peu le contexte de cette tournée et il dit « Johnny Hallyday était un type épatant, d'une gentillesse, d'un humour, d'une autodérision rare. J'ai bu des bières avec lui. À l'époque, il voulait changer de nom de scène et créer un groupe dont il serait le chanteur. Il voulait arrêter d'être Johnny et fonder un groupe qui s'appellerait Smet. Il se disait bouffé par son nom. C'était vraiment un type adorable et intelligent. C'était une période difficile pour Johnny. Il était considéré comme un has-been, ce qui a fait dire à Catherine Deneuve qu'à l'époque, le public venait voir Ange en première partie. À la fin des concerts, c'est fou. À la fin des concerts, nous le retrouvions autour d'un verre pour refaire le monde. Il n'était pas du tout le même que quand il était seul et il nous a dit « Ce que vous faites, ça va marcher. Il m'a appris comment il fallait être sur scène. Il m'a appris mon métier. Lui, c'est un showman que je respecte. Il n'a jamais fait semblant. Il a toujours été très sincère avec le public dans la musique qu'il défendait. » C'est joli, hein?
Eh ouais. Eh, c'est quelque chose, quand même, ce qu'on écoute,
c'est
là.
Quelque chose. C'est quelque chose. En dehors de cette première partie, évidemment, il y a d'autres gens, mais peut-être qu'on aura un peu plus l'occasion d'en parler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, donc, en fait, dans cette tournée, il se passe deux choses distinctes. D'une part, il y a le village Johnny Hallyday, qui a lieu toute la journée. Et après, le soir, il y a le spectacle. Dans le village de Johnny Hallyday, ça se déroule de midi à minuit. Et il y a un tatoueur, un studio photo pour se faire postériser avec Johnny Hallyday.
Ouais, ça j'aurais
J'aurais adoré voir en fait comment c'est, parce qu'il le décrit un peu dans le bouquin, mais j'aurais adoré.
Je pense que c'est juste une PLV, un truc un peu comme
je
ça.
Je pense aussi, mais je trouve ça dingue. Il y a une boutique de fringues de la marque de Johnny Hallyday. Déjà à l'époque, il monte sa marque de fringues. Il y a un stand moto avec un essai sur piste. Il y a un glacier, une confiserie et un musée sur la vie de Johnny Hallyday et d'autres grands rockers. Ça aussi, pareil, j'aurais adoré voir. Et ensuite, il y a le spectacle dans lequel il y a des funambules, des cracheurs de feu, des fakirs, des battleurs, des dresseurs d'ours et de chèvres, des clowns. Et il y a évidemment toute la partie musicale. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement énorme.
On écoute toujours Ange au passage.
Ah, ça fait plaisir. C'est bien, hein, c'est pas mal.
Ça aurait pu être dans l'épisode d'avant.
C'est vrai.
Psyché France à mort.
Est-ce qu'on n'attaquerait pas sur le lancement de cette tournée ?
Je vais vous mettre un petit jingle, hein, probablement. Je vais mettre un jingle Johnny, d'ailleurs.
Bah, allez-y.
Puisqu'on en a un.
Est-ce que vous les connaissez, ces jeux ?
Podcast.
Podcast. J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais
Discorama.
Et ça, c'était le génie d'après.
Franchement, c'est à s'y méprendre quand je l'imite quand même, non ?
On est à ça.
On est à ça. Donc, le lancement de la tournée, c'est le 16 juin 1972, avec une première date au château de Chantilly. Et on va être très
c'est
clair.
C'est passé crème.
Château crème. Donc, c'est sous une pluie battante, hein. Une panne de courant générale, la pelouse est gorgée de flotte, le truc est un bourbier. À quelques kilomètres de là, Johnny est embourbé avec sa Rolls-Royce. Il arrivera sur scène qu'à minuit, hein, quand même, puisqu'il n'arrive pas à sortir de son bourbier. Y a des Hells Angels qui provoquent une méga bagarre avec le service d'ordre et les flics. Y a les spectateurs qui tentent de fuir une baston générale. Le spectacle démarre en retard. Bon, ça, j'ai envie de dire, ça, c'est coutumier dans les concerts. Donc, Johnny n'arrive qu'à minuit sur scène. Mais, voilà, il galvanise les foules. Il offre 15 morceaux. Il est survolté. Complètement. Alors, comment il est habillé, Johnny ? Parce que ça aussi, c'est quand même pas mal. Il a une guitare en bandoulière, une croix en argent autour du cou. Il est vêtu d'un costume de daim rouge et jaune qu'il a rapporté de son dernier voyage en Californie. Il a des bottes de cow-boy, blanc et rouge aux pieds. Et il a l'une de ses bottes qui lui comprime le pied parce qu'il s'est pété le pied 8 jours plus tôt dans une bagarre de rue. Donc Johnny souffre. Hein. Johnny souffre, mais Johnny ne lâche rien. Johnny galvanise les foules et il offre un concert absolument formidable.
Capté par RTL.
Tout à fait.
Ce qui nous permet aujourd'hui d'entendre ce concert tout au long de ce podcast. Alors vous allez voir que le son est d'époque, hein, c'est pas une captation de concert, voilà. Mais ça vous donne une idée un peu de la folie de ces concerts.
Le groupe qui accompagne Johnny s'appelle les Blackbirds. Tous les soirs, c'est avec cette chanson qu'il ouvre.
Qu'il ouvre, ouais.
En disant je m'appelle Jean-Philippe Fett. Jean-Philippe Smet.
Jean-Philippe Fett.
Jean-Philippe Fett. Et oui, parce que c'est la fête. Donc. Il est accompagné par un groupe qui s'appelle les Blackbirds et ça tourne pas mal. Hein. C'est un très très bon groupe qu'il a sur scène. Certains diront que c'est probablement le meilleur groupe que Johnny ait jamais eu avec lui sur scène.
Oui, probablement. Oui.
Donc voilà, c'est apparemment ça tournait du feu de Dieu. Tout au long du bouquin d'ailleurs, c'est ce qu'il nous raconte, quoi. Que vraiment musicalement, c'est solide ce qui se passe. Ouais. Que c'est assez incroyable. Donc après cette première date au château de Chantilly, les trois dates suivantes seront un fiasco puisque la première à Compiègne est annulée puisque Johnny décide d'aller assister à un match de boxe, voilà. Ce qui causera une perte de 2 millions de francs. Et les deux suivantes...
Ça fait cher le match de boxe,
remarquez. Oui, ça fait cher. Les deux suivantes à Laon et Soissons sont annulées après un effondrement de tunnel dans l'Aisne qui a fait de très nombreux morts. Et donc, du coup, il y a une espèce de deuil national. Et du coup, bah, évidemment, on va pas aller... voilà.
On n'est pas dans l'esprit... voilà.
On va pas aller jouer. Donc, en fait, le vrai lancement de la tournée, il a lieu à Reims.
Ouais.
Qui est la deuxième date, mais théoriquement aurait dû être la quatrième.
Et je vous propose qu'on fasse une petite pause, parce que là on va rentrer dans le dur.
Ah oui.
Dans le dur sujet, donc on va faire une petite pause. Petit jingle. Beaucoup trop haut, ma voix.
Karim, je vais te battre dans la cuisinière.
Si tu n'écoutes pas Discorama.
Tu fais toujours du coup à ton père et à ta mère. On n'a pas le temps pour tes conneries. Soit tu.
Écoute Discorama.
Soit tu te dégages.
Et j'en profite. Pour passer un coup de fil à Jean-Loup.
Parce que... Ah, bah oui, parce que Jean-Loup, ça fait un moment, hein. Jean-Loup a un téléphone rondeau.
Allô?
Yes, can I speak to Mr. Jean-Loup Pichon, please?
Si, Seigneur Jean-Loup, Seigneur Jean-Loup, téléphone.
Allô? Yes?
Jean-Loup, c'est Simon, comment ça va?
Bah ouais, ça va, et toi? Quoi de neuf?
Bah moi ça va Jean-Loup, mais on avait dit, tu sais, pour la saison 7, t'as toujours pas de rubrique du coup. Et en plus, comme je peux l'entendre avec cette chanson typique, t'es au Mexique là, enfin je pense que je rêve pas.
Ouais, parce que j'ai besoin de me reposer mon petit. Mais par contre, je sais que c'est l'émission du taulier. Donc, je n'ai pas pu faire autrement que de rendre un hommage à Jean-Philippe. Voilà, je vous laisse sur ça. On se dit avant 15 jours, les loulous. Et d'ici là, hasta la mañana siempre. Voilà. Allez, bisous.
Je Je m'appelle Jean-Loup Pichon, je suis né à Paris. Mais vous me connaissez mieux sous le nom de Jean-Loup. Un soir de juin 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage.
Oh oui, je suis né dans la rue, oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue, oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue.
Incroyable.
Pas mal.
Ah bah écoute, ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Seigneur Yann Lou.
Merci Yann Lou.
Merci Jean-Loup. Ce serait quand même bien qu'il revienne parce qu'il va pas rester là-bas tout l'hiver quand même.
Je sais pas, j'en sais rien.
Écoute, j'espère qu'on aura des nouvelles. En tout cas, il nous fait plus de chroniques. Hein. C'est-à-dire que maintenant, on essaye de le joindre. Et puis voilà quoi. Insaisissable Jean-Loup.
Surtout, surtout, d'où sort l'argent? Faudrait peut-être qu'on regarde le compte Discorama, non?
Bah peut-être que ça pourrait peut-être valoir le coup. Ça se trouve, il nous tape le Tipeee. Ah ouais.
Tipeee, hein, Tipeee.
Tipeee,
s'il vous plaît.
Tipeee, promis, les prochains sous, on les mettra en sécurité loin de Jean-Loup. Donc, le vrai lancement de cette tournée a lieu à Reims, où d'entrée, Johnny gagne le respect des mecs qui montent le chapiteau. Puisque Manu, le chef des monteurs, quand Johnny arrive sur les lieux, ils mettent Johnny au défi de planter un piquet du chapiteau en trois coups.
On dit, dis donc, Johnny, t'es capable de mettre trois coups sur le piquet, là, parce que personne n'y arrive.
Exactement. Et Johnny, en fait, c'est un enfant de la balle, donc il sait que c'est important. Dans ce cadre-là, de prouver et surtout de gagner le respect des forains. Et il s'exécute et il y arrive. Et alors là, Manu, il lui dit « Johnny, toi et moi, ce sera la vie à la mort.
Hein. » Je n'avais pas mon pitch, du coup.
Exactement. Reims, pour Johnny, c'est aussi l'occasion de retrouver son ancien adjudant avec qui il a gardé une amitié très très solide de quand il a fait son service militaire. Et à chaque fois, il l'invite au spectacle et après, il va terminer la nuit chez lui dans son pavillon de la banlieue rémoise en refaisant le monde jusqu'à 6h du mat. Et en fait, là, ce soir-là, à Reims, il y a Nicoletta et Carlos qui viennent le voir. Et Johnny, il boit un peu des coups dans la loge. Et puis après, en fait, il se tire chez son adjudant pour aller finir la nuit dans le pavillon de banlieue. Donc voilà, c'est un très bon concert. Et cette première semaine de tournée, elle enchaîne des dates avec assez peu de kilomètres. Puisque après Reims, ils vont à Troyes, à Metz, à Nancy, Saint-Dié, Épinal, Vesoul. Donc ils restent dans un rayon.
Ça a son importance.
Exactement. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que là, ce qu'ils ont, c'est une caravane avec 80 véhicules, quoi. Et une caravane à 80 véhicules, concrètement, ça roule à 60 km/h.
Ouais.
Et les circassiens, ils connaissent très bien cette contrainte, puisque eux, en fait, des circassiens, ça fait des petits sauts de puce quand ça saute de ville en ville. Et puis surtout, à chaque fois qu'ils sautent de ville en ville, bah, ils essayent de rester un minimum de 4-5 jours pour que ça vaille le coup. Mais comme...
Le montage est long.
Exactement, le montage est très long. Et en fait, du coup, là, ils se retrouvent avec un problème, c'est que ils ont soit des dates qui sont trop proches, soit des dates qui sont trop éloignées. Quand les dates, elles sont trop proches, ce qui se passe, c'est que ça écume tout le public de la région dès la première. Et du coup...
Les gens viennent plus après.
À 80 km de là, en fait, les gens, il y a beaucoup moins de monde qui est là. Et c'est pas étonnant du coup qu'il n'y ait pas une foule de dingues qui se presse devant le chapiteau.
Il faut s'imaginer certaines dates de Johnny avec genre le tiers ou le quart du chapiteau rempli.
Ouais.
Enfin, aujourd'hui ça me paraît fou de Johnny Hallyday avec genre une salle à 25% remplie quoi.
Et quand c'est trop loin, au-delà de 100 km, ils ont des difficultés parce que c'est extrêmement long à monter. Il y a 40 mecs hein, pour monter tout ça. Hein. Mais. En fait, ils n'arrivent pas à ouvrir le village à temps. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec le village Johnny qui n'ouvre pas du tout à midi, mais qui va plutôt ouvrir à 17h, quoi. Donc, et ça n'a pas du tout été anticipé. On voit que c'est des noobs totales. Et en plus de ça, il y a un problème supplémentaire qui se met par-dessus, qui est qu'il y a un certain nombre de municipalités qui ne sont pas super fans à l'idée d'accueillir Johnny, puisqu'ils considèrent un peu que c'est un fauteur de troubles, quoi. C'est un mauvais garçon. Et soit ça n'arrête pas de changer d'endroit. Soit il leur file des terrains improbables, excentrés, en pente, enfin des trucs.
Remember Elixir, hein, on est presque un peu.
On est tout à fait dans les mêmes problématiques. Et en fait, ça a pas ça n'arrête pas de faire bouger le programme tout au long de la tournée. Et ça, c'est un vrai problème profond et logistique qui va entacher l'existence du Johnny Circus.
Et on va écouter Fils de personne, un de mes morceaux favoris. À cette époque.
Adaptation de Philippe Labro,
oui.
Du morceau de Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival, que j'adore à titre personnel.
Je peux faire une confession?
Oui.
Je préfère la version de Johnny.
Mais t'as le droit.
Voilà.
Attends, mais Johnny, c'est Johnny, hein. On est des vrais JH. Donc. Cette première partie de tournée, il y a quand même pas mal d'emmerdes. On s'en rend assez vite compte. Et en fait, Jean Ponce, qui est donc manager de Johnny et coproducteur...
Qu'est-ce qu'il en pense ?
Il en pense que il a compris très très vite que c'est un gouffre en termes de thunes. Et donc, il décide de réduire drastiquement la voilure du village et aussi... sur un certain nombre de petits spectacles, petits happenings, tu vois, fini les fauves, fini les cracheurs de feu, fini les fakirs, fini le tatoueur. Et en fait, sur le village, on aura la boutique, le glacier, les photos, basta cosy.
Déjà, au bout de 4 dates ou 5 dates.
Un peu plus, mais ouais, au bout de quelques dates, il comprend très très vite. Et parallèlement à ça, c'est assez difficile. Parce que bah, comme il y a des dates qui sont un peu clairsemées, tout ça, pour Johnny, c'est pas drôle. Le moral est un peu bas. Et Johnny, qui était clean depuis 6 mois, il tombe dans les bras d'une des choristes de la tournée, qui s'appelle Nanette Workman.
Dont on va écouter un morceau de suite. Pareil, hein, c'est des morceaux... c'est Johnny, c'est son époque heavy. Hein.
Ah ouais, c'est heavy.
Écoute Baby Boom de Nanette Workman. Ça, c'est sa période. Je vais passer deux morceaux de Nanette Workman vite fait. Ça paraît un petit peu plus funky. Vous allez voir que. Elle est aussi un peu.
Burnée.
Un peu burnée, quoi. On écoute pas fou Nanette Workman.
Ah, Nanette
Workman. Alors, parlons de Evil Nanette.
Alors, Evil Nanette, Nanette Workman, c'est une américaine qui a un parcours un peu chaotique, hein. Qui a vécu des choses assez terribles dans sa vie et qui est choriste et qui chante notamment sur des morceaux d'Elton John, des Rolling Stones, de pas mal de monde, de Ringo aussi.
Oui.
Et elle rencontre Johnny en studio à Londres et ils deviennent amis. Et elle se barre au Canada et elle commence à faire une carrière au Canada qui marche assez bien. Et Johnny l'a fait venir avec lui pour animer un peu une première partie avec Sam Bernett, le monsieur loyal qui annonce plein de trucs, et en fait il y a plein de successions d'artistes qui viennent sur scène, et notamment Nanette Workman qui est une espèce de bombe, hein, faut dire la vérité. Elle est hyper belle, elle est hyper rock,
elle est dans les canons
de l'époque.
Ouais, mais en fait elle était pas si belle, elle devait dégager quelque chose, qu'elle était pas d'une beauté folle, justement, je trouve. Mais c'est dire si elle devait dégager quelque chose.
Sûrement. Et Johnny tombe dans les bras de cette fille qui ne consomme pas que des cigarettes et de la bière.
Non.
Voilà. Et du coup, de fil en aiguille, Johnny se retrouve assez vite à se défoncer
H24. Hein. Et on parle de sérieuses défonces.
Hein. De très sérieuses défonces. Il est en retard sur scène à tous les concerts. Mais il donne vraiment tout pendant les concerts. C'est-à-dire que même si le public est très clairsemé, c'est tellement clairsemé quand même qu'ils ouvrent les portes du chapiteau pour que des gens qui n'ont pas payé leur place puissent rentrer.
Je sais pas si on s'imagine ça aujourd'hui. C'est fou de penser que...
C'est complètement dingue. Et en fait, Johnny, plus il va mal et moins il y a de monde dans la salle, meilleur il est sur scène, en fait.
Eh oui.
Il est incroyable, il donne absolument tout. Et même s'il est en train de comater la gueule sur la moquette dans sa chambre d'hôtel, 2 heures plus tard, il est comme un lion sur scène. Il est fou, il est là. Même si juste avant ça va pas et juste après ça va pas, il est là et il donne absolument tout. Et Johnny Hallyday a parlé du Johnny Circus un petit peu, et il dira à ce sujet.
Il en a parlé quasiment que dans son bouquin avec Amanda Sterz, en fait.
Ouais. Il dira: le Johnny Circus portait bien son nom, c'était la tournée de la défonce, quelque chose de sombre. Je traînais mon mal-être de ville en ville avec une femme belle comme une déesse, mais tapissée de démons. J'avais un chauffeur dans une Rolls blanche. À y réfléchir, je m'en souviens comme une sorte de long cauchemar avec des rires qui sonnaient faux. Même à raconter, c'est irréel.
Eh oui.
C'est ce qu'il en garde. Et donc Johnny carbure aux enfêtes, à la cocaïne. Tellement que pendant toute la tournée, il a un petit surnom.
Ah oui, c'est quoi déjà?
Captain Sniff.
Captain Sniff.
Quand même, hein. Quand on commence à t'appeler Captain Sniff, c'est qu'à mon avis, c'est un peu dangereux. Et donc. Nanette Workman, elle croque Johnny. Pourtant, Johnny, à l'époque, il est toujours avec Sylvie, hein.
Oui.
Johnny, il parle de Nanette et il dit d'elle: elle était un génie musical à l'état brut, un mélange de Piaf et de Tina Turner. Elle m'avait vu à Londres enregistrer Ma Jolie Sarah. Elle avait décidé qu'elle m'aurait. C'était une tigresse. Nanette avait un talent fou. C'est de ça que je suis tombée amoureuse. Quand une femme qu'on aime a de l'influence sur nous, qu'on veut parler le même langage qu'elle, partager sa vie, son talent, on partage aussi cette débauche qui semble rock'n'roll au début. Elle m'a fait beaucoup de mal. C'est elle qui m'a plongée dans la drogue. Nos petits déjeuners commençaient par une ligne de coke et je dormais 1 heure par nuit.
Et elle a enregistré Lady Marmalade en français.
Oui. Ça va, mon chéri? Alors je t'amène avec moi. Getchi, getchi, ya, ya, da, da. Getchi, getchi, ya, ya, yeah. Boca, boca, la, da, ya, ya. Je suis Lady Marmalade.
Ça aurait été drôle qu'elle sale le dise en anglais, pour le coup.
Oui.
Une ligne de coke.
Nanette Workman aussi, elle parle de Johnny. Elle dit de lui que c'est pas un ange, que sobre, c'est un type amusant avec qui on peut avoir beaucoup de plaisir, mais quand il se met à boire, son attitude change complètement. Il se transforme en une personne méchante, cruelle, sans respect pour qui que ce soit. L'alcool fait remonter ses problèmes à la surface, il devient ombrageux, d'un caractère exécrable. Vaut mieux ne pas l'approcher dans ces moments-là. Il y a une petite amertume entre eux, hein, a posteriori quand même. On n'est pas sur l'amour de jeunesse dont on va garder un éternel beau souvenir.
On touche pas à Johnny. Hein.
Touche pas à Johnny. Est-ce qu'il serait pas temps un peu de parler du catering?
Ah, parlons du catering.
Bah oui, parce que
catering
qui dit Lara, tourner catering. Dit catering.
Oui.
Alors qu'est-ce que c'est le catering pour ceux qui ne savent pas?
Le catering, c'est l'endroit où les artistes mangent en fait.
Absolument.
C'est la cafette.
Et cette cafette, elle est animée par un technicien lumière qui propose à la production de prendre un bus long, un double decker, un bus londonien, pour le transformer en catering. Et à l'époque, c'est pas tellement un truc qui existe, en fait. On va plutôt dans les restos du coin ou quoi.
Les caterings n'existent pas, en fait.
En fait, ils l'inventent pas, mais bon, on va dire que c'est pas un truc très courant.
En France, en tout cas, c'est pas du tout courant.
Et grâce à ce bus, les jours de pluie, bah, ils mangent chaud. Les jours où il fait beau, ils installent une super terrasse avec des canisses pour boire et manger à l'abri des regards. Ouais, exactement. Autour d'un, deux ou huit verres, avant ou après le spectacle, ça fume pas mal de joints, ça ouvre les esprits. Et au cœur d'une tournée un peu difficile et déprimante, en fait, ce bus londonien, c'est un peu une bouée de secours pour l'ensemble de l'équipe et pour garder le moral. Et puis, il y a aussi Franco, le chef italien de Johnny, qui bien souvent va de date en date dans la Rolls-Royce. C'est lui qui conduit la Rolls-Royce pendant que Johnny y part à moto.
Et qu'est-ce qu'il fait dans la Rolls-Royce? Ça, c'est
dingue. Et en fait, il utilise la Rolls-Royce. Concrètement, c'est un Kangoo hein, pour lui. C'est-à-dire qu'il charge les cagettes de tomates, les courgettes. Et il tend des ficelles.
Pour faire sécher les pâtes.
Ouais, entre le rétro et la lunette arrière pour faire pendouiller des pâtes fraîches. Parce que Johnny, il adore ça. Je trouve ça génial. Il faut savoir aussi que dans cette tournée, il y a des roulottes. Et que, à la base, donc Johnny, lui, il a une espèce de méga roulotte avec une télé couleur, un truc de ouf, qui appartient
à Bouglione.
Au chef de la famille Bouglione, qui la prête parce que c'est Johnny.
Ouais.
Et tous les autres, ils sont censés dormir dans des roulottes où c'est des dortoirs.
Oui, c'est ça.
Dans les faits, absolument, personne ne va dormir une seule nuit dans ces trucs-là. On finit toujours à l'hôtel. D'abord parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a des groupies et des midinettes qui font le mur et qui se pâment autour de Johnny et qu'en fait, il ouvre la caravane le matin et qu'en fait, il y a 50 meufs et que c'est juste pas du tout vivable. Et par contre, ces roulottes, elles vont quand même servir aux musiciens lors de rencontres un petit peu...
Ouais, elles servaient de chambre d'hôtel.
Bah, de chambre de baise. Hein, on peut appeler ça comme ça. Il y a eu une atmosphère quand même assez libérée à l'époque. Hein, on est en 72. Et ils font un concert à Oyonnax. Et après ce concert d'Oyonnax, il y a un jeune couple de fans inconditionnels de Johnny qui sympathise avec les musiciens.
Et, oui.
Et ils leur disent « Ah, mais venez, on va finir la soirée chez nous. » Et les musiciens « Ouais, ok, ça nous changera de l'atmosphère de colonie de vacances. » Et après quelques verres, madame est un petit peu entreprenante.
Mais ça, devant le mari.
Devant le mari, qui n'a pas l'air d'être plus dérangé que ça, voire ça les moustille. Et à Oyonnax, ça va finir en partouze.
On dit
hein.
Oyonnax, apparemment.
Ouais, bah, moi, je dis Oyonnax, hein. Pardon. Hein. On dit Avoria ou Avoriaz? Eh ben, on dit Oyonnax. Ah, moi, je dis Oyonnax. Je sais même pas où c'est, hein, Oyonnax.
C'est là-bas.
Ah, c'est par là-bas, ok. Donc, voilà.
Ça sonne sud-ouest, mais...
Voilà un peu ce qui se passe en dehors des moments où on est sur scène.
Bravo.
Est-ce que tu veux nous faire écouter quelque chose ou est-ce que je continue?
Essayez de Johnny.
« quitteront ils produiront ont essayé de vous aimer à votre tour de réussir tout ce que nous
c'est autre chose que ton kinvé hein Kevin
avons raté essayez
ton Annette.
Ouais. Ce disque est sorti après le décès de Johnny. Hein.
Il est sorti il y a pour les 50 ans, il y a un an.
Donc Johnny, pendant la tournée, il a une fâcheuse tendance à disparaître. Hein. Très régulièrement, on se demande où est Johnny. Une fois, ils sont près de la frontière suisse et ils décident de disparaître toute l'après-midi pour aller acheter un diamant à Nanette en Suisse, sans prévenir personne. Ou une autre fois aussi, ils sont à Grenoble et ils se disputent avec Nanette et on le fait chercher partout. Et il y a le concierge de l'hôtel où dort Johnny qui leur dit « Ah bah non, il a pris un taxi pour l'aéroport !» Mais comment ça ? Ah bah ouais, il a pris un taxi pour aller à l'aéroport, il va à Lyon. Et là, il y a une espèce de course-poursuite pour aller chercher Johnny à l'aéroport à Lyon, avec le chauffeur qui part sur sa moto et qui le ramène 2 heures plus tard, à minuit et des bananes, et où il dit « Bon bah ok, je vais faire le concert ». Et en fait, il était parti pour rejoindre Sylvie. Parce que Sylvie lui envoyait une lettre pour demander le divorce. Donc il se dit je vais aller retrouver Sylvie quand même.
Et oui.
Et pendant que Johnny le soir où il part donc pour aller à l'aéroport à Lyon, évidemment il y a un public qui est là. Et donc on a Sam Bernett qui est Monsieur Loyal à qui
on dit
tiens occupe le truc, sauf qu'il sait pas du tout combien de temps ça va tenir et il sait qu'à tout moment le public peut partir au quart de tour parce qu'il est vraiment chauffé à blanc et donc il continue il leur fait donnez-moi un H, enfin le truc dure des heures, il leur fait faire des holà, il leur fait même faire des karaokés où en fait il y a le groupe de Johnny, donc les Blackbirds qui sont sur scène et il y a des gens qui viennent sur scène pour chanter des morceaux de Johnny, donc ça c'est complètement fou. À 23h45 ils apprennent que Johnny a été récupéré mais il est encore à perpète. Les choristes improvisent un medley soul, enfin le truc est interminable. À 2h du matin, Johnny monte sur scène et
2h
du matin, ouais, je crois que c'est minuit, mais c'est 2h du matin. Il arrache sa chemise, il sue, il crie sa solitude au public, il s'égosille qu'il aime son public, il chiale.
Notamment sur Que je t'aime.
Absolument.
Et que ton oreiller ressemble au champ de blé quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îles au paysage. Que je t'aime.
Donc là, faut imaginer Johnny qui arrache sa chemise, qui sue, qui explique au public qu'il est seul, et en fait, il pense à Sylvie, quoi. Sylvie, elle dit oh, ça va, non, mais parce que je suis pas complètement con, c'est pas parce que je suis pas là qu'il y a personne qui me prévient.
Ah.
Hein?
C'est moi ou c'est Nanette?
Bah, c'est même pas c'est moi ou c'est Nanette, c'est j'en ai ras le bol là.
C'est Tailleur Sonar qui va tailler les.
Exactement. Donc c'est une tournée qui est très dark. Un soir, c'est Tony Frank qui est photographe de son état qui raconte ça.
Qui a photographié notamment l'album, la pochette de Melody Nelson.
Absolument. Tony Frank raconte qu'un soir, ils se retrouvent au-dessus d'une pizzeria à Salon de Provence, où en fait c'est une pizzeria qui ferme tard.
C'est le QG de Johnny.
Absolument.
Quand il est en tournée,
un endroit où il a l'habitude d'aller en tournée. D'ailleurs, on en parlera, mais il y a beaucoup de lieux comme ça tout au long de la tournée où il connaît le proprio et où en fait il y a un appart au-dessus et où Johnny a l'habitude d'aller. Et Tony Frank, il va surprendre Johnny et Nanette Workman en train de jouer à la roulette russe avec un pistolet chargé.
Voilà.
Donc,
c'est leur grand jeu.
Oui. Et Johnny va mal au point que son garde du corps slash secrétaire particulier, il reste avec lui pendant des heures dans des chambres d'hôtel parce qu'il a peur qu'il tente de se suicider à nouveau puisqu'il avait déjà fait une tentative de suicide en 66
à Londres.
Absolument.
D'où Noir c'est Noir.
Absolument, mais là c'est darker is darker, tu vois. Donc voilà. La tournée continue. Ils sont donc dans le sud. Et en fait, cette tournée dans le sud, ça va être un peu une espèce d'apothéose pour eux. Parce qu'ils vont s'installer au Martinez. Et ils vont beaucoup s'amuser au Martinez. Alors déjà, ils doivent jouer à Orange. Mais il y a trop de Mistral pour installer le chapiteau. Et donc du coup, ils jouent dans le Théâtre Antique. Et c'est une date vraiment qui marquera les mémoires parce que bah voilà c'est comme si enfin c'est presque biblique quoi, on est dans un lieu mythique avec un chanteur mythique qui donne une prestation mythique, voilà, c'est assez fou. Et il faut une pause aux alentours du 14 juillet et c'est l'anniversaire de Sam Bernett,
le monsieur loyal qui a écrit le livre.
Absolument. Et Johnny lui offre un chien. Il le convoque dans sa chambre d'hôtel. Il lui dit Sam, viens me voir dans ma chambre d'hôtel. Et il lui donne un chien, un petit briard. Et alors il se demande comment ils vont l'appeler. Johnny dit oh, bah, on a qu'à l'appeler Marie-Jeanne. Puis finalement le chiot s'appellera Coca. Comme cocaïne. Voilà. Ensuite, Johnny, il emmène Sam dans une villa et là, on lui prépare un anniversaire surprise absolument grandiose. Piscine, musicien, gâteau géant. La fête bat vraiment son plein quand les invités découvrent les jambes légèrement tremblantes que le gâteau est plein de shit. Et que une des choristes, voire plusieurs, sont passées derrière le cuistot pendant qu'il faisait son petit mélange et qu'elles ont blindé le gâteau avec du hashish. Et donc le mec se sent mal, il vomit, il finit dans la salle de bain et Nanette vient à son secours et elle lui donne deux pilules à prendre en lui disant tiens tu prends ça, ça va aller mieux.
Bon. Tiens tu vas t'être aussi adosé là.
T'inquiète pas, et il les prend et il y a un petit problème, c'est que c'est du LSD. Et donc là, il se rend compte, il se dit « Non, mais là, il faut absolument que je me casse. » Il embarque 5 personnes avec lui dans la voiture, dont la présidente du fan club de Johnny Hallyday. Il a un trou noir et il se fait réveiller par un jardinier au volant de la voiture. Et là, il se réveille, il se dit, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Je suis où? Et en fait, ils ont fait tourner le moteur de la voiture, mais ils ne sont absolument jamais partis. Mmh. Donc voilà, il se fait réveiller le lendemain, genre à 11h du matin, dans sa bagnole avec le moteur qui tourne. Ils ont aussi saccagé le Martinez à la lance à incendie. Pendant une dizaine de jours, en fait, entre Nice et Marseille, ils enchaînent les concerts et ils s'amusent beaucoup. Et notamment en saccageant le Martinez, ce qui n'est pas une très bonne idée, entre nous soit dit, mais fort potache. Et c'est un gouffre financier. Et au milieu de la tournée, en fait, on explique aux musiciens qu'ils seront payés que la moitié, quoi. Donc, il y en a certains d'entre eux qui avaient dealé de se faire acheter une moto à la place d'une partie de leur cachet. Donc, eux, ils sont bien contents puisqu'on leur a déjà donné la moto. Mais alors, les autres, ils l'ont dans le cul, quoi.
Eh oui.
Donc, il y en a qui ont gagné une Kawasaki et il y en a qui ont gagné la moitié de ce qu'ils devaient gagner. Toujours dans le sud, ils jouent dans des petits villages. Ça arrive souvent qu'ils jouent dans des petits villages et notamment dans un village de 700 habitants. Mais non, ils arrivent à faire le plein.
Non, mais vous imaginez Johnny dans un village de 700 habitants?
Bah ouais, bien sûr. Et le soir, après les concerts, ils atterrissent dans des boîtes de Valbonne où Johnny Hallyday fait un bœuf avec les musiciens ou alors à Saint-Tropez où ils s'arrêtent obligatoirement pour aller manger un hot dog frit au gorille. Parce que c'est le patron qui l'a décidé. Et ils vont écouter Dynasty Crisis au Voom Voom avec Paul Naref et Joël de Il était une fois, et qui à l'époque n'en fait pas encore partie. Et c'est marrant parce que, en fait, c'est une date qui va
déclencher pour Dynasty Crisis le fait de faire d'être musicien de scène
pour Paul Naref. Joël de Il était une fois, ça va aussi débloquer des choses pour elle. Et en fait, Jacques Rouveriolis, qui est un ingé lumière, il raconte c'était une soirée magique pour nous. Parce que on était rien, on était avec nos potes qui faisaient de la musique à Saint-Tropez et on se retrouve au Voom Voom avec Paul Naref et Johnny qu'on ne connaissait pas personnellement. Moi, j'étais plagiste le jour à la Playa, un restaurant bar nightclub, et le soir, je bricolais avec 3 spots et 2 gamelles la lumière au nightclub pour les Beatles, un groupe de rock. Les Beatles, pardon.
Les fameux.
Oui. Cette soirée au Voom Voom a transformé nos vies, un destin fou. Michel Polnareff nous a embarqués avec lui pendant 7 ans. Michel m'a donné tous les moyens pour m'exprimer en lumière. Et quand il a quitté la France pour les États-Unis, Roger et moi, nous avons rejoint Johnny Hallyday jusqu'à la fin. Johnny, il m'a tout permis. Tout ce que j'ai développé en lumière avec lui m'a servi toute ma carrière. Dans le showbiz, au théâtre, à l'opéra, c'est grâce à mon travail avec lui que j'ai reçu mon premier Molière au théâtre. Johnny était un artiste hors du commun. Avec Roger Abriol, on a bossé avec lui pendant 40 ans.
En une soirée. Pas mal quand même.
En fait, tout au long de ce bouquin, on découvre à quel point Johnny est un mec
rassembleur,
mais surtout qui a envie, enfin qui est assez normal.
Oui.
Et qui n'a pas du tout, qui a plus envie de se mélanger à des gens normaux.
Oui.
Qu'à des gens du showbiz.
C'est vrai.
On écoute quoi?
Oh ma jolie Sarah.
Très bien. Chanson qu'il enregistrait quand il a rencontré Nanette.
Alors, il y a un sample de batterie, je trouve, au début, qui est fou. En fait, en l'écoutant tout à l'heure, je fais une petite aparté comme ça, parce que ça me paraît être intéressant. Et parce que je pense que si jamais vous ne l'avez pas fait, il faut le sampler, c'est trop bien, écoutez bien. Si je fais la boucle un peu parfaite, écoutez bien. Je le cale un petit peu là, mais ne bougez pas, hop, ça arrive. Tu vois ?
On peut presque l'accélérer et faire un truc pas mal.
Pas mal, hein ?
Ouais, c'est cool.
Bref, on va écouter.
Whoa!
Georges au Carange. Qui vit dans l'illusion qu'un peu de change et tout casse et tout passe, tout lasse. Le désir se diluent dans les phases.
Gros tube.
Génial, j'adore.
Simone, petit jingle peut-être. Est-ce que vous voulez un petit jingle?
Oh oui, mettez-nous un petit jingle avant de continuer la suite quand
j'aime
même.
J'aime bien celui-là.
Discorama, avec au micro et au platine, Simon et Simone.
Et souvent c'est du...
Voilà.
Non, c'est bien résumé. Donc, on reprend le cours de cette histoire absolument passionnante. Il faut savoir que Johnny, avant même cette tournée, il est un peu ingérable. Et du coup, Jean Ponce, le producteur, il dit, il faut absolument que je trouve un moyen de gérer Johnny. Et donc, il se dit, il y a un pote de Johnny, là, je le connais, c'est un type pas trop mal, il est plutôt assez sain. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller le voir avant de partir en tournée et je vais lui proposer de venir et de partager la chambre avec Johnny. Parce qu'il faut savoir que, bon, Johnny, le réveiller le matin, apparemment, c'est un truc, hein. C'est-à-dire que quand tu viens frapper à sa porte de chambre d'hôtel, il peut faire voler des tabourets sur ta gueule.
Oui, bah, qui n'a pas fait ça?
Qui n'a pas fait ça, bien sûr. Et donc, Jean Ponce...
Je l'ai peut-être fait en tournée. Hein.
Ouais, bah, ça m'étonnerait pas. Et donc, Jean Ponce, il propose... Bah, de toute façon, oui, toi, le matin, en tournée, dur.
Bah oui.
Bah oui, forcément. En même temps, on se couche très tard, il faut se lever très tôt, c'est très dur. Donc Jean Ponce, il dit, bon ben voilà, je vais demander à Christophe, Christophe d'Astier de la Vigerie, je vais lui dire, écoute Christophe, est-ce que ça te dit de venir partager la chambre de Johnny? Et il dit oui. Mais il comprend pas vraiment pourquoi on lui a demandé. C'est-à-dire qu'il croit qu'il est là pour être un bon camarade. Il ouais. a pas compris tout de suite qu'il est là pour gérer Johnny. Mais très vite, en fait, la mission, ça devient une espèce de calvaire. Tout le monde est un peu jaloux de lui, ou en tout cas, il le vit comme ça. Les gens sont pas très sympas avec lui. C'est un peu l'incruste qui partage la chambre de la vedette.
Ouais.
Et le garde du corps, le cuistot, toute la garde rapprochée de Johnny est vraiment dégueu avec le mec. Et il se dit, ouais, vas-y, moi j'en ai ma claque, je me casse. Après le passage dans le sud, il dit « Vas-y, moi, je me casse, je termine pas la tournée. » Et en fait, des années plus tard, mais genre 40 ans plus tard, il se retrouve à revoir Sam Bernett. Et Sam Bernett lui apprend que, mais en fait, pas du tout, les gens n'étaient pas dégueux avec lui. Il lui dit, en fait, à part Sam Bernett, en gros, il y a quasiment personne qui est sympa avec lui, quoi. Et ils disent « Mais en fait, tout le monde pensait que t'étais le dealer de Johnny. » C'est pour ça que tout le monde était un peu froid avec toi. Mais en fait, ça n'était pas du tout le dealer, c'était plutôt le copain qui était là pour essayer de faire en sorte que Johnny arrive à l'heure.
Eh oui.
Eh oui. Parce que Johnny n'arrive pas du tout à l'heure.
Bah, Johnny, oui.
Et on est
en
toujours...
En même temps, c'est Johnny, hein, j'ai envie de te dire. S'il a envie d'arriver, tu vois.
C'est vrai. On est toujours dans le sud, on migre doucement vers le sud-est avec cette tournée et se passe l'épisode probablement le plus what the fuck de toute la tournée. Ils font escale à Port Barcarès et à Port Barcarès, Manu le gitan qui monte qui est le chef des monteurs du chapiteau,
celui à qui il avait dit dis donc
dis donc toi est-ce que t'es cap
mets-y trois coups
est-ce que t'es cap. Et Manu et sa bande, ils décident de préparer une surprise pour Johnny. Et pour les musiciens, parce qu'en fait, il vit un des moments les plus fous de sa vie, quoi. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettent face au Lydia. Donc, le Lydia, c'est un paquebot ensablé qui sert de boîte de nuit, de resto, etc., à Port Barcarès. Et sur la plage, ils font un gigantesque méchoui. Tout le monde est là, on entonne des chants gitans, on n'attend plus que Johnny, qui n'est pas au courant. Et quand il arrive, il est accueilli par Manu, qui lui dit « Regarde Johnny, tout ça c'est pour toi, pour te remercier, parce que t'es notre ami, t'es notre idole, et ce méchoui, c'est en ton honneur. »
Ce méchoui, c'est pour toi.
Et là, en fait, Manu, il prend sa machette pour couper le méchoui. Sauf qu'il
coupe pas que le méchoui. Quoi.
Il rate le méchoui, quoi.
Il rate le méchoui, mais par chance, il ne rate pas son bras.
Absolument. Et en fait, il se coupe le bras.
C'est pas une égratignure. Il se sectionne le bras.
Il se sectionne le bras. Et là, en fait, le sang gicle, personne ne comprend ce qui se passe. Manu Bandit, donc la victime, hurle de douleur, le bras tombe dans le feu. On éteint le feu, les secouristes qui suivent la tournée interviennent. Les pompiers arrivent, on met le bras dans une glacière. On part à l'hôpital. Ceux qui restent sur la plage, ils comprennent pas bien. Hein. Ils sont un peu prostrés, silencieux.
Mais on le mange quand même un peu, l'agneau, parce que là, il...
Alors, il est carbonisé, hein, clairement, le méchoui. Johnny enfourche sa moto. Il suit l'équipé jusqu'à l'hôpital. Et en fait, le lendemain matin, Johnny, les copains de Manu sont tous à l'hôpital. Ils ont veillé toute la nuit. Et Manu, il est sauvé.
Enfin, mais pas son bras.
Et donc, et c'est là où c'est dur, c'est que en fait, ils rendent tous visite à Manu avant de repartir pour Narbonne, quoi. Parce qu'en fait, ils peuvent pas rester. C'est-à-dire que leur pote de tournée s'est sectionné un bras et tout le monde est obligé de se barrer, quoi. C'est horrible.
Oui.
Puis alors, le coup du bras qui tombe dans le feu, c'est vraiment un truc méchoui à l'idée, nous dit-on sur le chat. C'est exactement ça. C'est vraiment... Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible. On me foutrait ça dans un film, j'y croirais pas.
Ouais. Et on écoute « Comme si je devais mourir demain ».
Je ne peux plus vivre et mentir. J'ai vécu comme un animal. Combien de fois t'ai-je fait mal? J'ai voulu vivre à tout prix. Je n'ai rien fait de ma vie. Et pour la première fois, je chante comme si je devais.
Ils veulent Nanette.
Eh oui.
Aujourd'hui, je n'en peux plus. Je mets mon front sur ton sein nu.
Les dates suivantes, évidemment, elles sont pas terribles. Hein. Le moral est un peu bas.
Bah, c'est-à-dire, oui.
Et alors, qu'est-ce qui se passe quand le moral est bas sur cette tournée? Bah, on boit, on fume, on prend des psychotropes en quantité. Et on continue. Et ils font une date à Pau où les parachutistes tentent de provoquer une énorme bagarre. Et puis, ils partent pour Biarritz, où ils retrouvent un peu de baume au cœur en allant dîner chez Albert, face à la mer. Parce qu'on est bien reçu chez Albert. Et en fait, durant toute cette tournée, on voit qu'il y a ça. Il y a ces restaurants où ils vont, où il y a des grandes tables, où on mange très bien, où on boit très bien. C'est extrêmement kiffeur, hein, faut dire la vérité. On est sur un Johnny kiffeur de grandes tables.
Kiffeur, mi Kurt Cobain. Attendez, c'est un peu ça.
C'est-à-dire que Kurt Cobain, on le voit plus avec des mac and cheese, voire à pas manger du tout. Alors que Johnny, le repas, c'est important. C'est très, très...
Thierry Deveau, là, paf.
Ouais, c'est très kiffeur. Et en fait, il y a une espèce de rythme, en fait, dans la tournée qui consiste en ça. On part le matin d'une date en moto. On arrive dans une ville où, là, on va passer des heures et des heures et des heures à table dans un endroit qu'on aime bien. Ensuite, on va faire un concert relativement tardif. Puis après, on va soit finir dans un restaurant pendant des heures et des heures, soit on va aller dans une boîte et où on va finir la nuit. Vient le moment coucou méga surprise de cette tournée où Johnny est à Biarritz et il reçoit un coup de fil des gendarmes.
Moi, je trouve ça, c'est l'histoire la plus folle du bouquin, presque.
Peut-être. En tout cas, c'est celle qui en dit le plus sur Johnny.
C'est vrai.
Donc il reçoit un coup de fil des gendarmes à Biarritz et ils leur disent Monsieur Hallyday, on a un monsieur là qui nous dit qu'il est votre père et que et qui suit votre caravane en vagabondant. Donc son père en 44, le père de Johnny en 44, il a profité de l'absence de la mère de Johnny pour vider l'appart et pour laisser Johnny seul sur une couverture quand il avait 15 ans, en plein hiver, hein, dans un appart.
Oui, charmant monsieur, oui.
Et depuis que Johnny, ça marche un peu pour lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il vagabonde et puis il essaye de taper du pognon à son fils et son grand truc... Partout où Johnny passe en tournée, ça, ouais. C'est d'aller voir les gendarmes et de leur dire qu'il est le père de Johnny Hallyday et qu'il faut le prévenir qu'il est là. Et à toutes les tournées, il fait ça. Et donc, Johnny Hallyday, il demande à Sam Burnett de lui rendre service et il lui file une enveloppe.
Ce qui, évidemment, Johnny ne veut plus voir son père.
Ah, Johnny ne veut plus voir son père. Il lui file une enveloppe qui est remplie de billets et il lui dit tu vas à tel endroit. Donc Sam Burnett, il va à la gare de Biarritz. Il retrouve le père de Johnny, il lui file l'enveloppe.
Qui est un clodo.
Ah, qui est un clodo.
Le père de Johnny est un clochard. C'est pas une vue de l'esprit, c'est un clochard.
C'est un clochard. Rongé par l'alcool. Et il fera ça plusieurs fois.
Pas beaucoup finalement, ça, je trouve. On sait que le père de Johnny a été vraiment pas un mec bien, etc. Alcoolo,
oui,
mais
c'est
on sait.
Vrai.
Que c'était un clochard en fait.
Ouais. Et
donc, quand il chante Je suis né dans la rue.
Oui, c'est vrai, ouais, bien sûr. Et il le fera plusieurs fois jusqu'à la fin de la tournée. Et surtout, en fait, ce que t'apprends le bouquin, c'est que Johnny, c'est pas pour rien qu'il veut plus voir son père. C'est-à-dire que quand son père a ressurgi, quand pour lui ça a commencé à marcher, en fait, il a voulu aider son père. Il lui a acheté un appart. Il l'a emmené chez des tailleurs pour lui faire des fringues et tout, enfin tout ce que tu veux.
Acheter un appart au père qui l'a abandonné à 1 an.
Ouais, ouais, et qui l'a abandonné, qui a abandonné sa mère comme un salaud. Et en fait, le père de Johnny, il a tout vendu et il a mis le feu à l'appart.
Ouais, pour s'acheter de l'alcool.
Il a mis le feu à l'appart, ça c'était pas pour s'acheter de l'alcool, ça c'était probablement pour dire merde. Donc en fait, Johnny, il a jamais laissé son père, c'est-à-dire qu'il a toujours craché, hein. Il a toujours craché l'argent, mais il voulait plus le voir, quoi.
Oui, c'est exactement ça qui se passait. Est-ce que tu veux qu'on écoute un morceau?
On peut.
Écoute, rien ne vaut cette fille, là.
Et ben voilà. Ça me fait très plaisir que tu dises ça de moi.
T'as vu?
Que ce monde autour de moi est du temps passé déjà. Voir pleurer ou bien à rire, non, rien ne vaut cette fille-là. J'ai cru le meilleur,
son corps et son cœur,
son corps et son cœur,
son corps et son cœur.
J'ai son âme, oui, j'ai son corps et son cœur.
Son cœur,
avec son cœur.
petit jingle.
Eh non, tu connais
Discorama.
C'est Do Fa Sol.
Continuons notre histoire.
Alors après le Pays Basque, ils partent direction le bassin d'Arcachon et sur la route, Johnny dit à Sam Burnett, écoute, on va partir tous les deux. Je vais monter dans ta buick et on va partir tous les deux. Sam Burnett, ok, bon. Et ils partent tous les deux et Johnny il dit, ah, tiens, arrête-toi là. Il s'arrête dans une cabane à huîtres pour manger goulûment.
Kiefer.
Le patron de la cabane à huîtres est complètement stupéfait. Qu'est-ce que Johnny fait dans ma cabane à huîtres ? C'est c'est quand même assez dingue. Et une fois qu'ils ont fini, qu'ils s'en sont foutus plein la panse, ils continuent la route et ils arrivent du côté du bassin d'Arcachon. Et le problème, c'est que le soir, Johnny, ça va pas bien du tout. Et qu'il a...
Ah, ça, c'est les huîtres. Hein.
Il a mangé une mauvaise huître. Et il arrête pas de gerber. Et il arrête pas de gerber, mais genre fort. Et il va quand même donner son concert. Hein.
Oui. Moi, j'éternue. Je peux pas aller au restaurant.
Oui.
Lui, on sait ce que ça fait de manger une mauvaise huître.
Ah oui, manger une mauvaise huître, c'est hardcore. Donc il donne quand même un concert absolument exceptionnel et il s'effondre de scène en rejoignant sa caravane après tellement il est mal, quoi. On continue de remonter le long de la côte atlantique. On donne même un concert à l'île de Ré, qui à l'époque est toujours une île. Hein. Il n'y a pas de pont. Où Jean-Jacques Debout et Chantal Goya viennent consoler Johnny qui est au fond du trou.
Consommer aussi, hein, parce que c'est des gros consommateurs.
Aussi,
hein.
Bah oui, bien sûr. Johnny qui ne parle que de son divorce avec Sylvie. Mais sur la côte atlantique, les concerts sont pleins. Il y a beaucoup de touristes. Et les concerts se ressemblent concrètement. Johnny, il plane complètement. Il est vraiment pas bien du tout. Mais c'est un monstre sur scène. Et il fait le boulot, quoi. Et les gens sont hyper ravis. Ils font aussi un concert à Noirmoutier. Où ils vont dans une boîte qui s'appelle la Calorge. Et ils font la connaissance du DJ. Et ce DJ, c'est un Parisien qui passe de la super bonne musique.
Et qu'on connaîtra après.
Et donc, ils vont le voir et ils lui disent « Ouais, c'est génial,
qui es-tu ?
C'est top, qui es-tu ?» Bref, ils font connaissance, ils sympathisent. Et ce fameux DJ à la Calorge, je vous le donne en mille, c'est Laurent Boyer.
Ah bah, c'est incroyable.
Et ouais. Et on passe des après-midi à la plage, on fait des grandes tablées chez Chérix. Donc, juste à côté du Double Decker. Et c'est reparti pour un tour à Pornic. Tous les musiciens tombent malades et ont la cliche. Donc, la cliche, la diarrhée. Hein.
Oui, parce que ça, oui.
Pardon. Et pendant l'entracte, tout le monde se précipite pour aller aux toilettes. Enfin, c'est un enfer. Et ils en parlent à Chérix. Donc, l'ingé lumière qui fait aussi cuistot, qui se vexe et qui ferme son bus anglais jusqu'à nouvel ordre en disant « Ah bah c'est les papis, puisque c'est comme ça, bah vous irez bouffer ailleurs !» Voilà. Et on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu veux nous passer un petit morceau avant qu'on se parle peut-être un avant-dernier.
Toi, tu voles l'amour.
dans la joie, dans chaque cœur. Et tu le trouves normal de renvoyer le mal. Tu te donnes l'espoir et puis tu t'en vas. Toi ne sais jure ce que tu fais, tu en verras.
Le 19 août, Jean Ponce, le producteur, convoque tout le monde sous le chapiteau. Tout le monde se doute que c'est pas pour une très bonne nouvelle et il annonce que la tournée va finir dans 2 jours à Caen. Au lieu du 15 septembre à Toulouse. Donc presque un mois de tournée en moins. Comment ?
Remettons-nous... Enfin vraiment, c'est dingue. On parle de la plus grosse star française.
Et ouais.
En fait, on arrête les tournées, quoi. C'est incroyable.
On arrête les tournées. Les musiciens, les choristes, ils comprennent donc qu'ils vont devoir s'asseoir sur leur cachet, en plus de n'être payés que la moitié de ce qui avait été prévu par cachet. Mais personne n'est vraiment surpris. C'est-à-dire que Ponce, il explique à tout le monde... Johnny n'est pas là, hein. Il explique à tout le monde que, il est très inquiet pour Johnny, qui sort de scène dans un état absolument pitoyable. Et que, en plus de ça, c'est un gouffre financier et qu'il faut que ça s'arrête, quoi.
Oui.
Et donc voilà, donc ils font une date en Bretagne où il y a plein d'Anglais qui sont dans le coin en vacances, qui découvrent le French Elvis avec une certaine frénésie et qui trouvent ça absolument génial et qui adorent. Toute la partie medley rock finale, tout en anglais avec Nanette Workman, puisque dans le concert, en fait, il y a toute une partie medley, en fait, où ils font des reprises de
on va écouter juste après ça.
De plein de choses vraiment cool. À Saint-Lô, Sam Bernett remplace le trompettiste c'est l'avant-dernière date, il remplace le trompettiste qui a trop fêté la veille, en jouant en playback absolument tout le concert. Et la dernière à Caen a un goût très très amer, c'est un goût d'échec, c'est très dur, parce que juste après le concert, tout le monde rentrera chez lui, quoi. Johnny Hallyday, il dira de cette tournée: j'ai fui pour sauver ma peau. Cet été, je suis allé vraiment trop loin. Je dormais plus, je prenais des excitants le matin, des remontants le midi, des calmants le soir. C'était plus une valise que je portais, c'était une pharmacie. J'étais dans un triste état.
C'est triste.
Peut-être avant de terminer avec un autre morceau, on va se parler de l'après. L'après, il est terrible. Johnny part en désintox. Sylvie déménage à LA et inscrit son fils à l'école là-bas, donc clairement c'est fini. Johnny.
Il veut la reconquérir à mort. Hein.
Ouais, Johnny fuit à New York, qui repart à Los Angeles pour la reconquérir. Nanette Workman fait une tentative de suicide parce que Johnny allait quitter. Puis elle repart au Québec. Alors après, elle retrouvera du succès avec Starmania. Johnny, il est ruiné.
Il au a point plus qu'il pourra, un rond. Il pourra plus faire de concert pendant des années.
Absolument. Sylvie, elle lui donne carrément de quoi éponger ses dettes, en fait, parce qu'il est interdit bancaire.
C'est incroyable, ça.
Et Johnny, en fait, il a deux copains qui lui disent « Vas-y, viens Johnny, on se barre aux États-Unis, on va traverser la vallée de la mort en moto. » Sauf qu'on est en plein hiver, tout est fermé...
Mais ça lui fait du bien.
Ça lui fait du bien. De retour en France, il reçoit des lettres de relance, des lettres de relance, des lettres de relance. Les Bouglione n'ont jamais été payés. Il y a une énorme fâcherie avec le patriarche Bouglione qui s'était mis en quatre. Il avait avancé les frais. C'est lui qui a payé, parce qu'il faut le savoir, en fait, tous les 40 mecs là pour monter les chapiteaux, c'est Bouglione qui les a payés. Et il a jamais récupéré son pognon. Et un soir, il se croise dans un restaurant, dans une brasserie parisienne. Et Joseph Bouglione, il chope Johnny entre quatre murs. La discussion est virile, hein, clairement. Et en fait, Johnny, il lui explique, il lui dit: mais tu te rends compte, je suis interdit bancaire, je suis désolé, j'ai pas voulu ça, etc. Et finalement, Joseph Bouglione finira par offrir le champagne à tout le resto parce qu'ils ont foutu un bordel sans nom. Johnny fait quelques concerts à La Réunion en Argentine pour essayer de renflouer les caisses, mais il reste interdit bancaire. Et en fait, il va réussir à s'en sortir un peu parce qu'il a un copain coureur cycliste qui va lui prêter sa caravane du Tour de France.
Non mais...
pour lui faire faire des concerts un peu partout en France sur...
Imaginez-vous ça,
ouais,
enfin,
c'est fou.
C'est fou.
Donc Johnny part à New York et il rencontre le mec qui lui écrira toute la musique que j'aime, qui lui permettra en fait de vraiment se remettre en selle. Et Sylvie finira par lui pardonner en 1975.
Et on écoute Dead or Alive, qui était le morceau de clôture. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus et en plus en détail sur cette histoire incroyable, n'hésitez pas à lire Johnny Circus, la tournée cauchemar de Johnny Hallyday, écrit par Sam Bernett aux éditions L'Archipel. C'est vraiment un bouquin qui se lit en une après-midi.
Ouais, c'est vraiment super.
Et c'est super.
Ce qu'on retiendra de tout ça, c'est qu'en fait, Johnny avait eu...
Johnny ressort grandi, je trouve.
Ouais, et franchement, Johnny en sort grandi. Il apparaît comme un type vraiment généreux, vraiment sincère. Ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est que c'est plus un accident industriel parce qu'il y a un problème d'organisation à la base qu'autre chose, et qu'en soi, le projet était bien, il était viable. C'est juste qu'il fallait pas faire une date par soir, il fallait faire une date tous les 3 jours. Et qu'ils n'ont pas eu cette présence d'esprit-là. C'était une tournée qui mélangeait beaucoup d'artistes de grande qualité et où il y avait un show vraiment exceptionnel avec plein de gens dedans. Il y avait des super groupes, il y avait une vraie part pour la musique de qualité et pour proposer des choses nouvelles au public qui, je pense, n'étaient pas déçus. Oui, de ce qui lui était offert sur scène.
Bien sûr, bien sûr. Et après, oui, enfin, oui, bien sûr.
Voilà. C'était l'histoire du Johnny Circus, la tournée la plus catastrophique de Johnny Hallyday. Et on était très, très contents de la partager avec vous.
Ouais. J'espère que ça vous a plu.
Bah ouais. C'est la fin de cette histoire. On se retrouve donc dans une semaine pour le morceau de la quinzaine. Et dans 15 jours pour le prochain épisode de Discorama consacré à la musique des auditeurs.
Et oui.
Et oui.
Génial. À dans 15 jours et à dans une semaine. Et dans une semaine,
bisous.
Et dans 15 jours, bisous. Discorama. Discorama. Discorama.